C'est ce rôle, c'est cette portée particulière de l'esprit dans la musique occidentale et qui sur les champs et danses populaires de ces diverses régions fit fleurir la cantate, l'oratorio, l'opéra et la symphonie. C'est ce rôle que je voudrais maintenant essayer de déchiffrer avec vous. Ce sera l'objet central de notre entretien et celui d'où nous pourrons utilement jeter un regard sur la musique actuelle. J'ai dit civilisation occidentale, musique occidentale. J'aurais pu dire Europe, musique européenne. Mais cela aurait pu faire supposer que je postulais l'existence de pareilles notions en tant qu'unité de civilisation ou d'art. Nous ne savons que trop que l'Europe, en tant qu'unité, est encore à faire. Et quant à la musique européenne, nous ne la connaissons que sous l'espèce de musique nationale, ou du moins de quelques courants nationaux. Mais il y a une civilisation occidentale qui est née à Rome sous un souffle venu de Grèce et d'Orient, a imprimé son sceau à tous les pays d'Europe, capté partiellement la Russie et s'est étendue aujourd'hui au Nouveau Monde. Et il y a une musique qui est née et qui continue de naître de cette civilisation dans les contrées qu'elle touche, qui est même le seul de ces arts qui lui soit propre et qu'elle ait créé, et qui, en tant que musique, diffère radicalement de tout ce qu'auraient pu créer les races humaines ou de tout ce qu'avaient créé les civilisations antérieures. Le premier trait qui peut nous y frapper est qu'en elle se croise, et il faut pressentir dans ce mot toute la fécondité qui s'attache toujours à l'image de la croix, la pensée civilisatrice commune est le génie ou l'aptitude musicale des nations chez lesquelles elle pénètre. Ce croisement n'est d'ailleurs pas toujours fructueux. Il a donné peu de fruits en Espagne, il en a donné davantage en Russie, il a été surtout fécond dans les contrées germaniques, italiennes, françaises, anglo-saxonnes, flamandes, scandinaves et dans d'autres contrées slaves que la Russie. Comment le croisement s'opère et ce qu'il produit se reflète fidèlement dans l'histoire de notre musique. Le chant de l'Église chrétienne, qui est d'origine orientale, se répand avec elle dans les diverses contrées d'Europe et peu à peu se greffe sur lui un art qui est fait ici par des moines gaulois, là par des moines écossais, des germains ou des romains. Une certaine qualité que porte en lui ce chant d'église et qu'ils y décèlent stimule chez ces moines leur faculté musicale propre et y provoque une action créatrice. Et lorsque la musique née de l'église étendra son influence au domaine profane et agira toujours plus avant dans l'humain, le même événement se reproduira et fera faire à ceux qui faisaient des danses ou des chansons de nouvelles danses et de nouvelles chansons. Je veux dire que de la gigue naîtra une nouvelle gigue, de la sarabande une nouvelle sarabande, et ainsi de la gavotte, de la pavane, du menuet, de la chanson, de tous les types musicaux qu'avait élaboré le génie musical dans son activité première. La création musicale est toujours, comme je l'ai décrite, personnelle. Elle s'accomplit sur le terrain de la race, et quand les races feront surgir les nationalités, sur le terrain de la nationalité, mais elle s'organise sur le plan de la civilisation, qui est un plan d'orientation imprimée à toute la vie et à toutes les activités de la vie. Par là, les races ou les nations coopèrent et surtout communiquent, s'ouvrent les unes aux autres, ce qui est comme dans les vies personnelles le plus puissant facteur de progrès spirituel. En effet, le contact avec une manière d'être différente de la vôtre, sitôt que vous ne voyez pas dans l'autre simplement un barbare, mais en chrétien et en civilisé un prochain, vous fait sortir de vous. Et d'abord, en vous faisant voir à distance ce que vous êtes, vous permet de vous mieux connaître. Ensuite, en vous ouvrant à ce que cette nouvelle manière d'être vous apporte, vous enrichit. Bach reçoit de Vivaldi une nouvelle manière de manifester son sens harmonique dans la mélodie. Des Français, la révélation des qualités sensibles de la danse. Haydn et Beethoven reçoivent des Slaves un nouvel élan à leur mélodie et à leur rythme. Glinka, des Italiens, reçoit l'art d'utiliser les voix, et en fait un art russe. Debussy, de Bach, de Schumann, de Wagner, le secret de la conduite tonale. Et chacun de ces hommes intègre sa découverte à son bien national. Ne croyez donc pas que je veuille vous faire pressentir l'avènement d'un art international. C'est impossible. Mais d'un art qui vit, entre autres, des apports mutuels des génies nationaux. Les nations sont en effet faites pour s'ouvrir les unes aux autres, se féconder les unes les autres, comme les individus d'un même milieu. C'est pourquoi les nationalistes, c'est-à-dire ceux qui prétendent que les activités musicales nationales sont étanches et se doivent de le rester, me fâchent. Ils me fâchent parce qu'ils méconnaissent ainsi la loi historique de notre musique, et plus encore par la stérilité dont ils se frappent eux-mêmes. En particulier, le recours qu'ils font souvent à un ordre latin me paraît dépourvu de toute espèce de sens, parce que cet ordre ne concerne pas la musique. Et que la musique est un monde né de la civilisation occidentale, auquel ont coopéré, comme je l'ai dit, Italiens, Français, Germains, Anglo-Saxons et Slaves, et qui a sa vie propre. Si le monde latin s'était créé une musique, elle eût été vraisemblablement assez parente à celle de la civilisation hellénique. Et cependant, le monde latin vit aujourd'hui d'une toute autre musique. Remarquez d'ailleurs qu'il y a autant de rapports, sinon davantage, entre la musique italienne et la germanique, d'une part, entre la française et la germanique, d'autre part, qu'entre l'italienne et la française.